Radio de la Paix, il est 7 heures. Le journal de 7 heures, Sonia Nzian.
À toutes et à tous, bonjour, les grands points de ce 7 heures. Reprise hier du procès en appel de l'attentat de Grand Bassam. La partie civile requiert justice et réparation, tandis que la défense plaide l'acquittement. Le verdict attendu ce vendredi. Les douanes ivoiriennes assistées dans la lutte contre la contrebande et la fraude en Côte d'Ivoire. Du matériel de communication leur a été offert mardi par le PAGDS, projet d'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base aux citoyens. L'actualité sur le continent nous conduira en République démocratique du Congo, où de nouveaux affrontements mettent fin à l'accalmie dans l'est du pays. La revue des titres de la presse vous sera présentée par Francis Cassi avant de retrouver Dr Boyer Roméo. Aujourd'hui invité de la rédaction, l'économiste expliquera la note BB- attribuée à la Côte d'Ivoire par l'agence américaine de notation Fitch Ratings. Principalement sur le sujet, Dr Boyer Roméo sera en fin d'édition avec Ismaël Ango. Ouvrons ce journal avec un mot sur la lutte contre la corruption dans le monde en 2024. La Côte d'Ivoire, classée 69e sur 180 pays par Transparency International. L'ONG met en lumière les efforts ivoiriens réalisés au cours des 5 dernières années. En effet, l'indice de perception de la corruption 2024 de l'organisation indique que le pays a gagné 5 points, atteignant un score de 45 sur 100, contrairement à 2023 où la Côte d'Ivoire voire affiché un score de 40 sur 100. L'actualité, c'est aussi le procès en appel de l'attentat de Grand Bassam. Il a repris hier mardi au tribunal d'Abidjan Plateau après plusieurs reports. 4 des 10 accusés de l'attaque du 13 mars 2016 étaient à la barre, nous apprend Nelly Dali.
Maître Amadou Camara, avocat de la partie civile, a demandé au juge de rendre justice aux victimes de cet attentat, mais également leur réparation.
Nous demandons réparation pour les victimes, pas une réparation seulement matérielle, mais une réparation également psychologique, une réparation financière pour leur permettre de faire définitivement leur deuil et de cicatriser l'ensemble des plaies auxquelles elles ont été victimes à la suite de ces attentats.
Un des avocats de la défense a à son tour demandé l'acquittement de ses clients car il n'y a pas de preuves retenues contre eux. Maître Jonas Azadi.
Mes clients ne sont que de simples lampistes parce que les complices, celui qui est en connaissance de cause, apporte aide, assistance. Et on nous dit le fait d'avoir hébergé une nuit, voire deux, trois nuits suffit pour qu'on soit complice. Est-ce qu'ils savaient le dessein qui animait ces personnes? Non, ils sont dans l'impératif d'apporter ces mêmes preuves. Et on accuse. Mais il faut aussi savoir que la liberté demeure la règle et l'exception c'est la condamnation. Mais il faut condamner au-delà du doute raisonnable. Parce que, en reprenant les termes de l'article 2 de notre code de procédure pénale, toute personne accusée est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit judiciairement établie. Dès lors, nous avons demandé à bon droit leur acquittement parce qu'on ne doit pas condamner à tort sans preuve. Nous pensons que justice sera rendue et que mes clients seraient acquittés.
Le verdict doit être rendu vendredi 14 février prochain au tribunal d'Abidjan Plateau.
Direction d'Ivo, où la FIDOP exhorte les populations à œuvrer pour une élection présidentielle apaisée en octobre prochain. C'était le vendredi 7 février à l'occasion de l'installation de son bureau régional. Enfin, le point avec vous, Abel César Cassin.
Le président de la Fondation internationale pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie pacifique, en abrégé FIDOP, le docteur Bogasako, a utilisé un langage simple et imagé pour faire comprendre à son auditoire le concept, les droits de l'homme.
Les droits de l'homme sont-elles massacrés? La vendeuse au marché, elle a les droits de l'homme. Le vagabond que vous voyez là, il a les droits de l'homme. Vous ne devez pas le maltraiter. Vous ne devez pas le brutaliser. Je dis, même s'il a volé, traitez-le avec dignité. Droits de l'homme égale dignité de l'homme.
Sur la nécessité pour les membres du bureau régional installé à rencontrer sans tarder les différents chefs de communauté, Boga Sako en donne les raisons.
Nous sommes en 2025. Il y a une élection présidentielle en octobre. Quand il y a des problèmes dans le pays là, Divo est toujours numéro un. Les problèmes politiques nous divisent. Donc le problème, il est politique. Parce que si Divo brûle, ça peut exploser la Côte d'Ivoire. Il faut éviter cela. Il faut faire de la sensibilisation. Il faut qu'on anticipe.
Le président de la représentation locale de la FIDOP, Mangone Bi Pascal, dévoile l'un des points inscrits dans son plan d'action.
Quiconque piétinera le droit ou du reste mènera des actions de sorte à détruire la cohésion sociale sera dénoncé.
Enseignants, forces de défense et de sécurité, chefs de communauté, associations de jeunes et de femmes ont suivi avec un intérêt appuyé cette conférence dont le thème était « Droits de l'homme et cohésion en période électorale, le cas de la ville de Divo ». De Divo, Abel César Cassin, Radio de la Paix.
Quittons justement Divo pour Korogo. La ville a abrité du 5 au 9 février dernier la troisième édition de Avocats dans la Cité, une initiative de l'Ordre des avocats de Côte d'Ivoire destinée à rapprocher la justice des populations avec entre autres des consultations juridiques gratuites. Des précisions sur cette activité conduite par le bâtonnier Maître Loan Messan Florence que nous écoutons.
Si vous voulez la justice, il faut que le droit soit appliqué. Le droit, c'est le code de procédure pénale. Même le plus dangereux des criminels, il a droit à la justice. Et le code de procédure pénale protège le droit de tous, même les criminels. Donc le rôle de l'avocat, c'est de veiller à ce que les droits du plus grand criminel soient respectés. Maintenant, si tous les droits sont respectés et que la justice estime qu'il est coupable, la peine va être prononcée. Mais il a droit à être défendu et il a droit à un procès équitable. Effectivement, il y a des freins par rapport à la justice. On s'est vraiment déployé dans la ville de Korogo, c'est le lieu de remercier toutes les autorités politiques, administratives et judiciaires de cette belle localité. On a promis de revenir. À force, je pense que les populations vont adhérer au concept de justice. Donc, nous avons fait les consultations gratuites, nous avons fait des conférences dans les écoles, dont notamment la conférence au département de droit. C'était très, très beau et nous l'avons manifesté notre disponibilité et nous avons dit que les portes du barreau sont ouvertes aux meilleurs. On les attend à Abidjan pour être avocat. Et ensuite, nous avons continué avec l'IFEF au lycée Dominique Ouattara, au lycée Félix Soufflet Boigny au lycée moderne. Nous sommes partis présenter aux jeunes élèves, à nos frères, à nos enfants, qu'il existe des modèles en Côte d'Ivoire et qu'il ne faut pas forcément suivre des faux exemples. L'école mène à la réussite et l'école peut mener à l'avocature.
Maître Loan Messan Florence, bâtonnier de l'Ordre des avocats de Côte d'Ivoire. Du matériel de communication a été offert hier à la Direction générale des douanes pour lutter efficacement contre la contrebande et la fraude en Côte d'Ivoire. Une action du PAGDS, projet d'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base aux citoyens, ici rapportée par Ismaël Angot.
C'est l'effervescence à la salle de conférence de l'École nationale des douanes. 370 radios portatives et 10 kits de visioconférence offerts aux agents de douane. Un équipement flambant neuf financé par la Banque mondiale à travers le PAGDS aider la douane à mieux mobiliser les recettes de l'État et avoir moins de dépenses. C'est tout l'enjeu de ce don. Madame Yao Madeleine, coordonnateur du PAGDS.
Ces instruments de lutte contre la corruption et du banditisme en fait dans le milieu va permettre de canaliser mieux nos ressources, de réduire les poches de fuite et donc d'optimiser les ressources.
Environ 400 millions de francs CFA, coût de cet équipement destiné à faciliter la communication entre les services de surveillance dans les régions et aux frontières. Il va également permettre la formation des douaniers et douanières en ligne et présentiel. Cela pour lutter efficacement contre la contrebande et la fraude. Le général Dapierre Alphonse, directeur général des douanes ivoiriennes.
Lorsque le chef de subdivision se trouve à Bangourou et qu'il a des équipes à Takikro, il faut bien qu'il communique. Nous sommes sur tout le territoire national. Tout ce qui relève de la recherche de la contrebande de campagne, cela se fait sur les 322 000 km² de la Côte d'Ivoire. Avec le système de vidéoconférence, on peut faire la formation à partir d'Abidjan, regrouper les agents à Korogo, à Boaké, à Man, à Odiené, à San Pedro, à Boisso, pour les former, sans avoir forcément besoin d'eux ici.
Le bon usage de ces matériels modernes va sans doute relever les défis de la lutte contre la criminalité transfrontalière.
Poursuivons avec la formation en placement international d'une vingtaine de conseillers de l'Agence Emploi Jeune par l'Organisation internationale du travail OIT du 4 au 7 février à Yamoussoukro sur cette activité qui vise à étendre et à renforcer les processus de recrutement équitable à l'international. Le compte-rendu d'Emile Yao.
Cette formation vise à mettre les participants au même niveau de compétences pour exercer leur mission, explique François Dumoura, expert international des services de l'emploi à l'OIT. qualité.
La formation a consisté à proposer des outils, apprendre aux conseillers à poser les bonnes questions aux demandeurs d'emploi pour l'aider à vérifier son projet.
Les conseillers en charge de cette nouvelle offre de services sur le placement à l'international devront donc comprendre leur rôle, s'approprier et expérimenter les principaux actes métiers qui la composent afin de contribuer à sa mise en œuvre. Anne Cabran est le directeur des opérations de l'agence Emploi Jeune.
L'agence Emploi Jeune, en tant que service public de l'emploi, assure la mise en œuvre de cette nouvelle offre de services et c'est à travers donc le réseau des agences de l'agence Emploi Jeune que cette offre sera déployée. Alors les animateurs de ce réseau sont les chefs d'agence et les conseillers en insertion professionnelle qui vont assurer donc un succès dans le déploiement au cours de la phase pilote que nous connaîtrons très bientôt.
Ali Dandré, coordonnatrice nationale du projet Fait 3 à l'Organisation internationale du travail.
Le résultat attendu à l'issue de cet atelier-là, que les 20 conseillers à l'emploi soient à même de recevoir une offre à l'international, de traiter cette offre de conseiller, d'orienter et le recruteur et le demandeur d'emploi et faire cet équilibre-là pour offrir cette opportunité à des jeunes qui veulent bien aller à l'étranger dans des conditions légales.
Rappelons que depuis 2023, l'OIT accompagne l'agence Emploi Jeune de Côte d'Ivoire dans le cadre du projet Fait 3. Émile Yao, Yamoussoukro, Radio de la Paix.
Hors de nos frontières en République démocratique du Congo, des affrontements entre l'armée congolaise et le M23 alliés à des troupes rwandaises ont éclaté hier mardi dans l'est du pays, apprend l'AFP. Cette attaque du M23, toujours selon l'AFP, met ainsi fin à une courte accalmie qui avait suivi un appel à cesser le feu de dirigeants africains. Réunis samedi en sommet en Tanzanie, les dirigeants d'Afrique australe et de l'Est avaient appelé leurs états-majors à proposer un plan d'application d'un cessez-le-feu inconditionnel d'ici jeudi. Retour en Côte d'Ivoire où nous attend Francis Cassis pour la revue des titres de la presse. Bonjour Francis.
Bonjour Sonia. Bonjour à tous. C'est par une crise judiciaire dans la filière café-cacao que nous ouvrons notre revue des titres de vos journaux de ce mercredi. Des producteurs traduisent le conseil café-cacao en justice pour malversation. Titre à ce propos, dernier Un Monde. Et restons avec la justice par rapport au verdict du procès d'Amna Picasse, cadre du PPACI, qui en principe doit être rendu aujourd'hui. Et là-dessus, la voix originale bat ainsi sa une. Procès contre Amna Picasse, 20 ans de prison requis. Grave décision du tribunal ce mercredi 12 février. Le droit ou la politique? L'élection présidentielle en octobre de cette année est un autre sujet dont font cas vos tabloïdes de ce jour. Et à cet effet, proche de l'opposition dans le PPACI, le quotidien d'Abidjan écrit « Élection présidentielle de 2025, le danger qui guette la Côte d'Ivoire ». Également proche de l'opposition, mais du PDCI, le Nouveau Réveil, lui, dit « RLE, CEI, fraude, opposition, voici l'arme pour faire plier le RHDP ». Ce que dit et fait l'opposition ne nous intéresse pas. Réagit Cissé Bakongo, cadre du RHDP, sur le matin, lui, proche du pouvoir RHDP. Avant que de son côté, et de cette même tendance pro-pouvoir, le quotidien Les Soirs Ivoiriens naît cette manchette. Présidentiel 2025, le RHDP peaufine sa stratégie. Ensuite, quant au débat ça et là, en lien avec cette échéance électorale d'octobre prochain, le sursaut cite Vincent Toby Irié, ancien préfet d'Abidjan, en ces termes. Je suis sidéré par la faible qualité du débat politique ivoirien. On est vraiment tombé si bas? Tout tourne autour des individus. Et au sujet du développement routier en Côte d'Ivoire, le Nouveau Réveil note équipement et infrastructures routières. Ces travaux exécutés hors délai et hors budget. Et puis, terme de notre revue, des titres de vos quotidiens de ce 12 février par cette alerte sur le foncier dans la capitale économique ivoirienne venant de Le Jour Plus. Vente de terrain à Abidjan, un cartel sévit, des chefs de village complices, la faille du ministère qu'ils exploitent. Merci et bonne lecture de vos journaux.
Francis Cassis, à vous le merci. On vous retrouve dans l'édition de 8h. À présent, l'invité de la rédaction qui aujourd'hui est Dr Boyer Roméo, chercheur au Centre ivoirien de recherche économique et sociale CIRES. Il commente la note BB- attribuée à la Côte d'Ivoire par l'agence américaine de notation Fitch Ratings le 31 janvier dernier. Pour Dr Boyer Roméo, cette note signifie que le pays peut à court terme rembourser ses dettes. Sans plus tarder, retrouvons-le dans un entretien conduit par Ismaël Ango.
Bonjour, docteur Boyer Roméo.
Bonjour, monsieur.
Pour le citoyen lambda, que signifie cette notation BB- et perspective stable pour l'économie ivoirienne?
Dans les notations des agences à l'international que nous connaissons, donc les trois principaux, Moody's, Standard & Poor's et Fitch, c'est à peu près le même barème qu'ils ont. Seulement que les notations en termes de lettres et autres peuvent changer et en termes des différents signes qui sont. Alors, en ce qui concerne l'agence Fitch, quand vous êtes à BB-, ce qui veut dire que à l'heure actuelle, vous pouvez payer votre dette. À long terme, il pourrait avoir quand même des doutes sur la solvabilité. Maintenant, il faut faire une précision dans le cas de la Côte d'Ivoire ici. Lorsque, par exemple, l'agence dit il y a des perspectives stables, mais l'agence fait allusion à trois éléments que nous pouvons prendre en compte ici, qui sont le taux de croissance qui est relativement stable, donc autour de 6%, et vous avez le taux d'inflation autour de 3% dans notre zone, et vous avez aussi les recettes fiscales qui sont en hausse de 10%. À ce niveau-là, l'État peut mobiliser des CFA pour pouvoir honorer sa dette. Et surtout que cette dette est en euros, il y a une parité fixe entre les deux monnaies. Donc cela passe.
Docteur Boyer Roméo, qu'est-ce que cela signifie concrètement pour la Côte d'Ivoire que Fitch ait confirmé la note BB-?
Cela signifie que dans ce laps de temps-là, nous allons bénéficier de la confiance des ménages qui sont dans les pays où nous empruntons sur le marché financier. Donc la Côte d'Ivoire doit profiter de cette situation-là et instaurer cette confiance-là avec le monde extérieur pour pouvoir bénéficier des montants énormes pour poursuivre son développement.
Comment cette notation peut-elle influencer les investissements dans le pays?
Déjà, quand Fitch souligne les éléments clés sur lesquels cette agence est basée pour pouvoir parler de stabilité, cela donne une idée aux investisseurs qui disent, bon, voilà une économie stable où nos investissements ne vont pas craindre des chutes à n'importe quel moment ou de façon aléatoire. Les perspectives ne seront plus donc du coup aléatoires, mais plus ou moins stables. Et ça donne cet engouement-là à ces investisseurs à vraiment placer leur argent dans une telle économie.
Docteur Boyer Roméo, malgré sa croissance, la Côte d'Ivoire a encore des indicateurs de développement, éducation, santé, etc., qui pourraient être améliorés. Comment on peut améliorer ces indicateurs relatifs au secteur éducation et santé notamment?
Il vous faut investir là où il y aura des répercussions positives. C'est-à-dire quoi? Si vous construisez des écoles, mais sans les mesures d'accompagnement, sans faire un focus sur la qualité de l'enseignement. Quand vous construisez les hôpitaux de façon parallèle sur la qualité du personnel qui soigne, la disponibilité des médicaments, mais il va sans dire que la construction simple de ces infrastructures-là ne va pas améliorer la santé des Ivoiriens et donc n'aura aucun effet sur leur espérance de vie. Donc, mettre en place les infrastructures sanitaires ou éducatives seulement ne peuvent pas entraîner une amélioration du score sur le développement humain.
L'économie de la Côte d'Ivoire est fortement dépendante de la vente de matières premières comme le cacao, le pétrole ou le café à d'autres pays. Que doit faire la Côte d'Ivoire pour moins dépendre des matières premières?
Il faut faire tout simplement comme ce que les pays arabes font. Vous n'allez pas les voir, par exemple, mettre un focus sur l'industrie du pétrole. Parce que s'ils se disent qu'ils ne sont pas plus compétitifs là-bas, ils vont essayer de prendre cette manne financière-là et l'injecter dans un secteur ou dans des secteurs où ils seront plus compétitifs. Donc, à notre niveau, en Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas des consommateurs de chocolat et autres, tout ça. Ce qu'on peut faire, comment profiter de ces matières premières-là pour mettre en place des industries qui concernent effectivement la consommation des populations. Et c'est ce qu'il faut faire. Parce que si vous dites, par exemple, que vous allez transformer, vous allez faire du chocolat en Côte d'Ivoire et aller vendre en Suisse. Mais vous n'avez pas cette technologie. Si les pays comme la Suisse refusent de venir s'installer en Côte d'Ivoire pour faire cette transformation, parce que ça serait un peu très compliqué aussi pour ces pays-là, vu qu'il y a des pertes d'emplois à leur niveau. Et donc, si on ne s'associe pas au Ghana pour dire que nous allons imposer notre monopole sur le plan mondial, ça pourrait ne pas réussir cette transformation de nos matières premières. Mais il faut plutôt essayer de négocier des places dans la chaîne de valeur avec les pays occidentaux en termes d'amélioration pour avoir plus de ressources.
Docteur Boyer-Roméo, merci.
Merci beaucoup.
Aujourd'hui, invité de la rédaction, Docteur Boyer-Roméo, chercheur au Centre ivoirien de recherche économique et sociale CIRES, était avec Ismaël Longo. C'est ce qui referme les pages de ce journal, le rappel de l'essentiel. Reprise hier du procès en appel de l'attentat de Grand Bassam, la partie civile requiert justice et réparation, tandis que la défense plaide l'acquittement, le verdict attendu ce vendredi. Et puis sur le continent, République démocratique du Congo, de nouveaux affrontements mettent fin à l'accalmie dans l'est du pays. Merci de votre fidélité. Prochain rendez-vous, 8h.
Radio de la paix, l'info juste et sans passion.